Histoire de voir, histoire au pluriel, une émission sur la mémoire des révoltes, luttes et résistances populaires, d'hier et d'aujourd'hui, avec des militants, témoins et acteurs du mouvement social, des écrivains, des chercheurs et des artistes. Rendez-vous tous les mercredis en direct de 12h10 à 13h ou en différé sur laclédesondes.fr.
Paul Lafargue
et Laura Marx.
Il y a vraiment de quoi s'intéresser à la vie de Paul et de Laura Lafargue, née Marx. Nous vous le proposons en trois étapes. Qui étaient-ils ? Leur présence à Bordeaux pendant la Commune et les anecdotes bordelaises. Alors on lui doit l'idée de la réduction massive du temps de travail. Travailler moins pour travailler tous. Pour lui, la journée de travail pourrait être limitée à 3 heures sans diminuer la production. Réduire le temps de travail rendrait plus productif l'ouvrier, mais cette diminution de la durée du travail n'a aucun sens si les travailleurs n'obtiennent pas une augmentation de leur salaire. Ainsi, le droit à la paresse est un des fruits de la pensée Marx. Philosophe et organisateur, en 1889, sous l'impulsion d'Engels, avec Gade, Bebel, Liebknecht, Lafargue fonde l'Internationale ouvrière et décide de faire du 1er mai un jour de grève et de lutte pour la journée de 8 heures. Face à l'Internationale silencieuse des patrons, Lafargue veut faire vivre la phrase « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Il deviendra un des acteurs majeurs du 1er mai 1891 et son nom reste associé à la tragique fusillade de Fourmies.
Paul est né à Santiago de Cuba le 15 janvier 1842. Il y a 180 ans cette année. Il y a 150 ans donc, la Commune éclatait à Paris et parler du couple Lafargue n'est donc pas anodin. Paul est le fruit de la créolisation. La famille Lafargue, émigrée aux Antilles depuis le milieu du XVIIIe siècle, enrichie dans la culture du café en Haïti, ont, comme de nombreux Français après l'indépendance, quitté cette île et leurs plantations pour rejoindre Cuba. Paul est petit-fils d'une grand-mère caraïbe, mulâtre par sa mère, et bordelais de confession juive par son père. C'est donc tout naturellement que la famille Lafargue regagne la France et Bordeaux en 1851 pour permettre à Paul de poursuivre ses études. Le sang de trois races opprimées coule dans mes veines.
Tout en obtenant son baccalauréat en 1861 à Toulouse, il combat l'Empire. Il fréquente Proudhon et collabore à la Rive Gauche, fondée par Charles Longuet, son futur beau-frère, avec lequel il n'aura d'ailleurs guère d'affinité politique. En voyage à Londres en 1865, il rencontre Marx, puis participa, en octobre 1865, donc la même année, au premier congrès international d'étudiants à Liège, dont il fut un des organisateurs. Pour avoir demandé le 29 octobre
la suppression des rubans couleur nationale et l'adoption d'une seule couleur, la couleur rouge.
Il fut, pour cela et pour d'autres choses, exclu à vie de l'Université de Paris et pour 2 ans de toutes les universités de l'Empire. Il appartenait alors à la loge maçonnique de l'Avenir.
Paul s'est marié à Laura Marx. Il sera journaliste, écrivain, activiste, député, continuateur et traducteur avec Laura de la pensée de Marx. Il sera l'un des fondateurs du Parti Socialiste, SFIO, section française de l'Internationale ouvrière. Paul est resté connu par son livre « Le droit à la paresse ». Qu'on ne s'y trompe pas, si ce livre est revenu à la mode grâce à Georges Moustaki chantant « Le droit à la paresse » en 68, il est tout sauf un livre sur le farniente. Inspiré des écrits de Marx, il nourrit une réflexion sur la notion du travail et l'exploitation ouvrière et du prolétariat en général et milite pour la réduction du temps de travail, un écrit de 1880.
Je cite « Chacun a le droit d'employer librement le temps plutôt que d'en être esclave. En faisant croire aux ouvriers, à l'aide de l'Église, que la vie est travail, les capitalistes passent leur temps à voler celui des travailleurs. Ces derniers ne devaient pas réclamer le droit au travail. C'est une erreur masochiste, selon Paul Lafargue, mais le droit à la paresse. Car c'est la possibilité d'employer son temps à ne pas travailler qui est le plus injustement distribué. Les propriétaires peuvent s'y adonner de bien des manières quand les ouvriers triment en servant les machines. C'est l'amour du travail, entre guillemets, amour du travail, qui a causé les plus grandes misères à ceux qui n'ont rien. Ils sont devenus entièrement dépendants du travail qui corrompt l'intelligence et les organismes qui tuent, entre guillemets, toutes les plus belles facultés.
Selon lui, la finalité du socialisme sera de répartir le travail et la paresse sans distinction sociale. À chacun d'employer son temps selon ses besoins, dit-il. Le droit à la paresse est paru d'abord en feuilleton dans le journal L'Égalité en 1881. C'est d'ailleurs lors de sa première incarcération à la prison de Saint-Pélagie que Paul Lafargue, futur député de Lille, écrit le livre qui sortira en 1883. Livre qui entamera ainsi une carrière internationale. Moustaki l'a chanté. Pour nous enchanter, écoutons-le.
Je voudrais rendre grâce à celui qui peut-être a été mon premier et mon unique maître. Un philosophe mort, voici quelques décades. Mort de son propre choix, ni trop vieux, ni malade. Il n'était pas de ceux qui entrent dans l'histoire. Nous sommes peu nombreux à servir sa mémoire. Il ne se posait pas en saint ou en prophète, mais cherchait avant nous le bonheur et la fête. Il rêvait d'une vie que l'on prend par la taille, sans avoir à la gagner comme une bataille. Il disait que la terre était pleine de fruits et de pain et d'amour, et que c'était gratuit. Il parlait de ne plus jamais plier les chines, ni de se prosterner devant une machine. Il souhaitait pour les générations futures de ne souffrir jamais d'aucune courbature. Sans vouloir enseigner, sa parole était claire. En cela peut-être elle est révolutionnaire. Je voudrais rendre grâce à ce maître en sagesse qui ne nous arrivait ni d'Orient ni de Grèce. Je voudrais rendre grâce à ce maître en sagesse qui ne demandait que le droit à la paresse.
Paul Lafargue et Laura Marx ont un itinéraire de militants internationalistes, fréquentant les dirigeants, les fondateurs de la pensée socialiste. D'abord Proudhon, puis Marx, Engels, Auguste Blanqui, Jaurès et enfin Jules Guesde, avec lesquels il fonda le Parti ouvrier français qui deviendra SFIO, Section française de l'Internationale ouvrière. Paul et Laura, amants éternels, fidèles à leur philosophie politique et militante, se suicideront l'année de leurs 70 ans, entre guillemets « sains de corps et d'esprit », fermez les guillemets, selon les termes de son testament, pour ne pas subir le joug de l'impitoyable vieillesse, toujours entre guillemets, qui prive progressivement l'homme de ses forces intellectuelles et physiques, le mettant à la charge de sa famille ou de la société. Leurs figures attachantes et entières ont marqué l'histoire et accompagné les combats du mouvement ouvrier. Paul et Laura ont su jusqu'au bout gérer le temps qui leur était compté. Les obsèques de Paul et Laura à Lafargue, au Père Lachaise, réunirent près de 20 000 personnes. Une dizaine de discours furent prononcés par les leaders socialistes venus de toute l'Europe. Au nom du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, c'est le nom officiel du Parti bolchévique, Lénine, qui eut des liens d'amitié avec le couple Lafargue, lut un long discours en français.
Tous les social-démocrates de Russie ont appris à estimer profondément la Fargue comme l'un des propagateurs les plus doués et les plus profonds du marxisme, dont les idées ont été brillamment confirmées par l'expérience de la lutte des classes dans la révolution et la contre-révolution russe.
Oui, il y a vraiment de quoi s'intéresser à la vie de Paul et de Laura Lafargue, née Marx. Ils furent présents à Bordeaux pendant la Commune. Ils y arrivèrent le 2 septembre. Et le 7 septembre, Paul Lafargue lance un appel dans le Républicain de la Gironde, 1792, 1848, 1870.
Républicains de la Gironde, unissons-nous. Constituons solidement notre parti et cette jeune république, entourée de traîtres qui la caressent et la flattent, cette république, notre amour et notre idéal, sortira victorieuse des malheurs de l'heure présente.
En octobre, il annonce à Marx la constitution d'un comité de l'AIT, Association internationale des travailleurs, logé au numéro 3 de la rue des Menus. On y trouve aujourd'hui une boucherie musulmane. Le 1er janvier 1871, le ministre de la guerre Léon Gambetta est reçu avec enthousiasme sur l'actuelle place de la République par les Bordelais, décidé à poursuivre le combat. Le gouvernement de défense nationale se replie à Bordeaux, pour la première fois capitale provisoire de la France. Pour valider le traité de paix préliminaire signé à Versailles par Adolphe Thiers le 28 janvier, Bismarck impose l'élection d'une assemblée nationale. Les législatives ont lieu le 8 février. Leur principal enjeu n'est pas la nature institutionnelle du régime, mais l'acceptation ou le rejet de la paix avec l'Allemagne. Conservateurs, monarchistes, aussi bien légitimistes qu'orléanistes, et républicains modérés sont favorables à la paix pour mieux assurer le retour à l'ordre et aux affaires. Paul fait un séjour à Paris du 9 au 19 avril 1871 pour des missions dont on ignore les tenants. Marx reprendra ses observations dans la guerre civile en France. À Bordeaux, Lafargue écrit dans la Fédération, organe de la section bordelaise de l'International, et appartient à la section de l'International dont il était lui-même le secrétaire correspondant, selon la Tribune du 1er mars 1871. Il fut l'un des 21 membres de l'AIT, candidat aux élections municipales du 30 avril 1871 à Bordeaux, figurant sur une liste comprenant en outre 15 membres du comité d'émancipation communale, toute la liste adoptant dans son entier le programme de la Commune de Paris.
Après la chute de la Commune et la Sainte... Après la chute de la Commune et la Semaine sanglante, la situation devenant critique, Lafargue s'enfuit à Saint-Gaudens, en mai. Fin juillet, il était à Luchon, Haute-Garonne, tout près de la frontière espagnole avec sa femme et les deux sœurs de celle-ci. Le 26 juillet, mourut, âgé de quelques mois, le troisième enfant des Lafargue. Le couple avait déjà perdu, en janvier 1870, une petite fille de 3 mois. Leur fils aîné, Étienne, né en décembre 1868, mourut en Espagne en mai 1872. Arrêté à Huesca le 11 août, à la demande du gouvernement Thiers, Lafargue fut relâché le 21, l'extradition ayant été refusée.
Histoire de voir, histoire au pluriel. Une émission sur la mémoire des révoltes, luttes et résistances populaires. D'hier et d'aujourd'hui, avec des militants, témoins et acteurs du mouvement social, des écrivains, des chercheurs et des artistes. Rendez-vous tous les mercredis en direct de 12h10 à 13h ou en différé sur laclédesondes.fr. Histoire de voir, histoire au pluriel.
Anecdote bordelaise. Une déposition anonyme sur le comportement de Paul Lafargue. C'est en l'an 1871, le 19 juillet, signé par Raoul Duval, qui est président de la commission d'appel de Bordeaux. Devant nous, premier président de la cour d'appel de Bordeaux, délégué par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, s'est présenté sur notre invitation une personne très honorable de cette ville et de nom parfaitement connu, laquelle a dit avoir à nous faire des déclarations d'une certaine importance en nous exprimant en même temps le désir de n'être point nommée pour des motifs qu'elle nous a expliqués et que nous avons trouvés plausibles.
Je connais parfaitement Paul Lafargue, membre de l'International et gendre de Karl Marx, son fondateur. J'étais l'ami intime de son père, François Lafargue, décédé en novembre dernier à Bordeaux, et de sa mère, Madame Virginie d'Armagnac, épouse Lafargue. Celle-ci est une simple et digne femme comme son mari était un homme de la plus complète honorabilité. Paul a toujours fait, par sa conduite, le désespoir de ses parents et son père est mort de chagrin qu'il lui a causé. À ses derniers moments, il me disait un jour « Vous avez dit souvent que les mauvaises fréquentations avaient perdu mon fils. Vous vous trompez, mon ami. C'est lui, au contraire, qui a entraîné tout ce qu'il a approché. » Comme son père, colon d'origine française, Paul Lafargue, aujourd'hui âgé de 29 ans, est né à Saint-Rago de Cuba. Mais il était fort jeune lorsqu'il est revenu à Bordeaux avec ses parents. Il a fait ses études chez M. Royer Missé, instituteur de cette ville, et s'est fait recevoir bachelier S-lettres à Toulouse. Puis il est allé à Paris commencer ses études pharmaceutiques chez M. Touzac, pharmacien rue Montorgueil, 67. Il abandonna bientôt cette direction pour se livrer à des études médicales et prit des inscriptions à la faculté de Paris. Mais il fut du nombre des étudiants qui se rendirent à la réunion de Liège et prononça un discours des plus subjectifs où il attaquait la société, la propriété, l'existence de Dieu et se trouva compris par la suite parmi les étudiants auxquels la fréquentation des facultés de Paris fut interdite. Son père l'envoya alors à Londres pour y continuer les études médicales qu'il ne pouvait plus poursuivre à Paris. Il venait alors de faire la connaissance de Tony Moilin, depuis membre de la Commune de Paris et récemment mort de ses blessures. Ce fut celui-ci qui, pendant le séjour de 3 ans que fit Paul Lafargue en Angleterre, le mit en rapport avec Karl Marx, son ami. Ces relations devinrent intimées et au bout de très peu de temps, Lafargue épousa Laura, la fille aînée de Marx. 2 enfants sont nés de ce mariage. Il revient à Paris en 68 ou 69. Se fut autorisé à passer à Strasbourg ses examens de médecine, mais n'a jamais profité de l'autorisation.
Au commencement de la guerre, Paul Lafargue reparut à Bordeaux avec sa femme et son premier enfant et prit domicile chez son père, rue Naujac, au 56. Il y resta jusqu'à la fin du premier siège par les Prussiens. C'est dans cet intervalle que mourut François Lafargue, père, laissant une fortune d'environ 100 000 francs à son fils dont le mariage n'avait aucunement augmenté les ressources. Le 6 avril, Paul Lafargue partit pour Paris, laissant sa femme et son enfant dans la maison de la rue Naujac, dont sa mère lui avait abandonné la jouissance pour se retirer dans un appartement de la rue Caussan, toute vie commune avec son fils lui étant devenue pénible. À son retour, qui eut lieu le 19 du même mois, ainsi que l'indiquent les lettres publiées par lui dans le journal La Tribune, il montrait une grande exaltation et proclamait les plus complètes espérances pour le succès définitif de la Commune de Paris. « Je suis bien content !» s'écria-t-il devant sa mère. « Les affaires vont très bien là-bas et nos projets vont enfin réussir. »«
J'en suis bien aise puisque je vous vois satisfait. »«
Comment me dites-vous cela ? Vous avez l'air de me narguer, mais vous pleurerez toutes les larmes de votre corps, car le moment arrive où tous ceux qui possèdent devront rendre gorge. Il faut que tout se nivelle et que le bourgeois ou riche, tous ces gens-là disparaissent. »
Mais vous savez bien pourtant que nous n'avons volé personne et que votre père a gagné honnêtement sa fortune.
C'est égal, vous restituerez comme les autres, il le faut.
Sa mère n'a pris son départ qu'en voyant devant la porte de la maison un omnibus de chemin de fer et en questionnant les voisins. Elle fit alors visiter la maison par le colleur de papier, tapissier, dont on pourra peut-être savoir le nom afin de vérifier les réparations qui pouvaient être nécessaires. Elle vit sur une cheminée des objets d'une forme singulière et d'un usage inconnu. Elle allait y porter la main lorsque le tapissier l'arrêta en lui disant
« Prenez garde, n'y touchez pas, ce sont des bombes qui ont été oubliées. »
Madame Lafargue met donc la crainte que la découverte de pareils engins ne compromettent son fils, fit alors faire un trou dans la cour de la maison et enterra, au nombre d'une douzaine environ, ces objets un peu moins gros que le poing. Ayant une sorte de culot métallique et dont la partie supérieure était fortement liée et serrée par une cordelette.
Pendant les séjours de Paul Lafargue à Bordeaux, il y avait des correspondances très actives et des échanges de journaux entre lui et son beau-père, Karl Marx, auquel ses lettres étaient adressées à Londres sous le nom de Sir Williams. Après son dernier départ et le lendemain, des lettres sont arrivées entre les mains de Madame Lafargue. mais à laquelle l'une semblait adressée. Elle l'ouvrit et reconnut qu'elle était en réalité destinée à Madame Paul Lafargue. Un nommé Guillaumette, qui demeure au Charton, écrivait à celle-ci que la quincaillerie d'Angleterre allait arriver et qu'il convenait de se procurer certains documents pour obtenir une passe. Nous avons supposé que cette quincaillerie ne pouvait être que des fusils. L'autre lettre, également ouverte par Madame Lafargue, mais venait de Paris à l'adresse de Paul Lafargue lui-même. On lui demandait d'envoyer du bois et du charbon, et l'on ajoutait que tout allait bien, que l'argent ne manquait pas, que l'on pouvait être tranquille. Elle n'a pas dit le nom du signataire. Ces deux lettres ont été brûlées par Madame Lafargue, à laquelle elles ont paru compromettantes pour son fils. Lafargue père en son vivant, employait en sa maison un jeune décrotteur, entre guillemets décrotteur, espagnol, établi à Bordeaux, nommé Morel, dont la sœur est femme de chambre chez Madame Lafargue, mère qui l'a élevée. Cette jeune fille avertit sa maîtresse que 3 ou 4 fois, Paul Lafargue avait emmené son frère à des réunions nocturnes de l'International. La conclusion de Raoul Duval, président de la cour d'appel de Bordeaux. Selon lui, Paul Lafargue, sa femme et ses belles-sœurs, imbus des doctrines de Karl Marx, professent matérialisme le plus absolu. La conduite morale de Paul est en harmonie avec ses principes. Il a débuté dans la vie par séduire une jeune fille, dont il a eu 2 enfants, et abandonné ensuite ses 3 victimes. Je ne sais pas d'où il tire ça, Raoul Duval. Tous ces renseignements que je vous donne, je les ai reçus presque entièrement de Madame Veuve Lafargue, et je tiens essentiellement à ce que, si les poursuites sont dirigées contre son fils, elles ne soient nullement compromises ni mises en scène. C'est une excellente et digne femme à tous égards. C'est tout ce que le témoin dit savoir et après lecture de sa déposition, il nous a déclaré encore reconnaître l'exactitude, en foi de quoi nous avons signé. Voilà, c'était le président de la cour d'appel de Bordeaux, Raoul Duval de l'époque, qui à l'époque recevait cette confession d'une amie, entre guillemets, de la famille.
Histoire de voir, histoire au pluriel, une émission sur la mémoire des révoltes, lutte et résistance populaire d'hier et d'aujourd'hui, avec des militants, témoins et acteurs du mouvement social, des écrivains, des chercheurs et des artistes. Rendez-vous tous les mercredis en direct de 12h10 à 13h ou en différé sur laclédesondes.fr. Histoire de voir, histoire au pluriel.
Morceau choisi. Sublimes estomacs gargantuesques, qu'êtes-vous devenus ? Sublime cerveau qui encercliez toute la pensée humaine, qu'êtes-vous devenus ? Nous sommes bien amoindris et bien dégénérés. La vache enragée, la pomme de terre, le fin fuchnissé, les schnapps prussiens savamment combinés avec le travail forcé ont débilité nos corps et rapetissé nos esprits. Et c'est alors que l'homme rétrécit son estomac et que la machine élargit sa productivité. C'est alors que les économistes nous prêchent la théorie multusienne, la religion de l'abstinence et le dogme du travail. Mais il faudrait leur arracher la langue et la jeter aux chiens. Extrait numéro 2. La France capitaliste, énorme femelle, velue de la face et chauve du crâne, avachie, aux chairs flasques, bouffie, blafarde, aux yeux éteints, ensommeillée et bâillant, s'allonge sur un canapé de velours. À ses pieds, le capitalisme industriel, gigantesque organisme de fer, à masque siamesque, dévore mécaniquement des hommes, des femmes, des enfants, dont les cris lugubres et déchirants emplissent l'air. La banque à museau de fouine, à corps d'hyène et à main d'harpie, lui dérobe prestement les pièces de 100 sous de la poche. Des hordes de misérables prolétaires, décharnés en haillons, escortés de gendarmes, le sabre au clair, chassé par les furies, les cinglants avec les fouets de la faim, apporte aux pieds de la France capitaliste des monceaux de marchandises, des barriques de vin, des sacs d'or et de blé.
Alors pour finir cette lecture et cet intérêt que nous avons pour Paul et Laura Lafargue, eh bien on va lire l'avant-propos du livre « Le droit à la paresse ». Et nous allons parler d'un personnage sinistre dont nous nous battons ici à Bordeaux pour changer le nom d'une avenue. Il s'agit de Monsieur Thiers. Monsieur Thiers, dans le sein de la commission sur l'instruction primaire de 1849, disait « Je veux rendre toute puissante l'influence du clergé parce que je compte sur lui pour propager cette bonne philosophie qui apprend à l'homme qu'il est ici bas pour souffrir et non cette autre philosophie qui dit au contraire à l'homme « jouis ». Monsieur Thiers formulait la morale de la classe bourgeoise dont il incarna l'égoïsme féroce et l'intelligence étroite. La bourgeoisie, alors qu'elle luttait contre la noblesse, soutenue par le clergé, arbora le libre examen et l'athéisme. Mais, triomphante, elle changea de ton et d'allure. Et, aujourd'hui, elle entend étayer de la religion sa suprématie économique et politique. Au XVe et XVIe siècle, elle avait allègrement repris la tradition païenne et glorifiait la chair de ses passions, réprouvée par le christianisme. De nos jours, gorgée de biens et de jouissances, elle renie les enseignements de ses penseurs, les Rabelais, les Diderot, et prêche l'abstinence aux salariés. La morale capitaliste, piteuse parodie de la morale chrétienne, frappe d'anathème la chair du travailleur. Elle prend pour idéal de réduire le producteur au plus petit minimum de besoins, de supprimer ses joies et ses passions, et de le condamner au rôle de machine, délivrant du travail sans trêve ni merci. Les socialistes révolutionnaires ont à recommencer le combat qu'ont combattu les philosophes et les pamphlétaires de la bourgeoisie. Ils ont à monter à l'assaut de la morale et des théories sociales du capitalisme. Ils ont à démolir, dans les têtes de la classe appelée à l'action, les préjugés semés par la classe régnante. Ils ont à proclamer, à la face des cafards de toutes les morales, que la terre cessera d'être la vallée de l'arbre du travailleur, que dans la société communiste de l'avenir que nous fonderons, entre guillemets, pacifiquement si possible, sinon violemment, fermez les guillemets, les passions des hommes auront la bride sur le cou, car toutes sont bonnes de leur nature, nous n'avons rien à éviter que leurs mauvais usages et leurs excès. Et ils ne seront évités que par leur mutuel contrebalancement, que par le développement harmonique de l'organisme humain, car, dit le docteur Bédoé, ce n'est que lorsqu'une race atteint son maximum de développement physique qu'elle atteint son plus haut point d'énergie et de vigueur morale. Telle était aussi l'opinion du grand naturaliste Charles Darwin. La réfutation du droit au travail que je réédite avec quelques notes additionnelles parues dans l'Égalité hebdomadaire de 1880, dans la deuxième série, et tout cela est écrit à la prison de Sainte-Pélagie en 1883. Eh bien, comme on le voit, ces quelques notes font furieusement penser à cette période que nous vivons actuellement où on nous contraint à travailler et à ne pas jouir. Eh bien, nous allons jouir, jouissons sans entrave. Merci à vous.
Histoire de voir, histoire au pluriel. Une émission sur la mémoire des révoltes, luttes et résistances populaires. D'hier et d'aujourd'hui, avec des militants, témoins et acteurs du mouvement social, des écrivains, des chercheurs et des artistes. Rendez-vous tous les mercredis en direct de 12h10 à 13h ou en différé sur laclédesondes.fr. Histoire de voir, histoire au pluriel.